peux vous poser quelques questions ?
Si le pasteur m'autorise, je répondrai, mais ça dépend de la question.
Me raconter, vous...
Vous donnez mon témoignage, si vous voulez, comment j'ai rencontré le Seigneur. C'est juste, voilà. Donc, pasteur, je peux ?
Oui.
Voilà. Déjà, je m'appelle Frédéric, voilà. J'ai 33 ans. Donc, j'ai rencontré le Seigneur il y a... que je raconte pas de bêtises, je n'aimerais pas mentir devant le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur il y a 7 ans. Donc comment ça s'est passé, c'est que bon déjà j'ai été élevé en famille d'accueil. À l'âge de 3 ans j'ai été séparé de ma mère. Donc après j'ai été placé à la DAS, tout ça, j'ai été donc élevé en famille d'accueil. Donc j'ai fait toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma vie de jeune homme en région parisienne. Je suis fonctionnaire, donc j'ai pu me faire muter sur Toulon. Et c'est sur mon lieu de travail où j'ai rencontré un jour un chrétien qui m'a parlé donc du Seigneur, qui m'a parlé de l'évangile, tout ça. Et bon, moi, ma vie d'avant, c'était vraiment... bon, je me droguais, je buvais, et j'avais toujours cette recherche d'amour, en fait, tout simplement. Et en fait, quand ce chrétien m'a parlé du Seigneur, j'ai découvert dans la parole de Dieu, qui est la Bible, j'ai découvert vraiment qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui voulait me sauver, et qui, par amour, avait donné son fils Jésus, tout simplement, pour me sauver, quoi. Un jour, ce chrétien donc, m'a invité à venir à des réunions de prière qui se tient donc où je travaille. Il y a un lieu où plusieurs chrétiens de toutes dénominations peuvent venir prier, partager un message de la parole de Dieu. Donc j'étais au contact donc de plusieurs chrétiens donc qui priaient pour moi, tout ça. Et un jour donc ce chrétien m'a donné une cassette vidéo sur la vie de Jésus. Et c'est à travers ce film en fait que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. C'est-à-dire ça s'est passé un soir, j'ai regardé donc ce film. Et donc à travers vraiment l'image de la crucifixion du Seigneur, c'est là vraiment où j'ai vraiment été touché profondément, quoi, parce que j'ai vraiment, moi comme je vous ai dit, j'étais élevé en famille d'accueil, donc j'ai pas connu ma mère, tout ça tout simplement, et j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin de vraiment de recevoir de l'amour. Et ce qui s'est passé, c'est quand vraiment j'ai découvert ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, qu'il a donné sa vie par amour pour moi, pour le pardon de mes péchés, et là tout ça, ça a changé dans mon cœur, quoi. Tout simplement, je me suis mis à genoux devant le Seigneur, je lui ai demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, pardonne-moi pour mes péchés. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait cette rencontre avec le Seigneur, donc c'est-à-dire que j'ai vraiment senti une présence, vraiment la présence de Dieu. Et du jour au lendemain, j'ai été délivré de la drogue, délivré du tabac, délivré de l'alcool. Et j'ai vraiment découvert, et j'ai été vraiment rempli d'amour, mais vraiment une sensation... Moi, vous savez, ce que j'ai découvert en Dieu, c'est son amour surtout, quoi, parce que l'amour de l'homme... Il est incomparable à l'amour de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, quand vous vous sentez aimé comme Dieu vous aime, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Donc ça fait 7 ans que je me suis converti. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc je me suis fait baptiser. Et depuis, je vis vraiment des moments merveilleux avec le Seigneur, quoi. À travers cela, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pardonner à ma mère. Parce que moi, j'ai toujours vécu dans ce sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté par ma mère. Donc le Seigneur a vraiment opéré des miracles dans ma vie. Et depuis, je vis vraiment des moments merveilleux avec Dieu, quoi. Donc, moi, je peux vous assurer que le Seigneur est vivant. Donc, Jésus est vivant. Moi, je le revendique. Et voilà ce que je voulais vous dire, quoi. C'est que j'ai Jésus dans mon cœur et j'appartiens à Christ et j'en suis fier, quoi. Voilà. Moi, j'étais dans le milieu rastafarisme. Donc, je croyais en une certaine philosophie. Je croyais en un Dieu. Je pensais que Bob Marley, c'était un prophète parce que j'étais vraiment infiltré là-dedans. Mais ce que j'ai vraiment découvert dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans l'Évangile, c'est vraiment une vérité. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu demain que je suis sauvé. J'ai vraiment découvert une vérité. La vérité, quoi, tout simplement. La vérité, il n'y en a qu'une.
Vous écoutez encore Bob Marley ?
Pas du tout. J'aime le reggae. J'ai quelques chants en reggae à la maison, mais c'est des chants chrétiens, la gloire de Dieu.
Et vous êtes marié ?
Pas du tout. J'attends que le Seigneur me donne l'épouse qu'il a préparée pour moi. Parce que je suis convaincu qu'il a la femme pour moi. Voilà.
Voilà, le décor de cette émission est dressé. Je vous propose une plongée chez les évangéliques, cette nébuleuse chrétienne d'origine protestante qui est en très forte expansion aux quatre coins du monde depuis les années 80. Ils représentent désormais la majorité des fidèles en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Chine et progressent aussi en Europe et en France. Voilà pourquoi il nous semblait intéressant de se pencher sur leur cas, et plus particulièrement sur ceux qu'on appelle pentecôtistes, charismatiques ou encore born again, car en fait, c'est eux qui progressent chaque année et qui constituent la nouveauté. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déjà noyés sous cette cascade de dénominations, Et justement, on va commencer par essayer de comprendre de quoi on parle et régler d'emblée une question de vocabulaire avec le politologue André Corten, à qui j'ai demandé s'il fallait dire évangéliste ou évangélique.
Je crois qu'il faut dire évangélique parce que évangéliste, ça peut être soit ceux qui ont, comme Luc, Marc, Jean, qui ont fait des évangiles, à qui on attribue des évangiles, sont des évangélistes, ou bien aussi c'est une fonction dans une église, c'est-à-dire que, bon, il y a le pasteur, mais en dessous du pasteur, il y a différents échelons, dont celui d'évangéliste, qui est une sorte de militant de l'Église, mais en fait, donc, c'est une fonction bien particulière. Alors, donc, il y a les évangéliques traditionnels, bon, qui sont issus de la Réforme, avec Luther, avec Calvin, les calvinistes et aussi les presbytériens. Et puis, alors, donc, là, il y a après les baptistes qui viennent un peu après. Et puis, il y a les méthodistes. Tout ça, c'est encore le protestantisme, disons, classique. Et puis, donc, là, se distingue le pentecôtisme et alors toutes sortes de mouvements charismatiques qui commencent, justement, à partir du 20e siècle. Mais donc, on utilise parfois le terme d'évangélique pour désigner l'ensemble de tous ces courants. Alors, ça introduit parfois une certaine confusion.
Et alors, quelle est la particularité du pentecôtisme ?
Donc, le pentecôtisme, c'est, si vous voulez, une sorte de réveil, justement, de recherche, de retour à l'Église primitive. Et donc, ça renvoie, justement, à cet acte de fondation dans la tradition du christianisme de l'Église, qui est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quelque chose qui est décrit dans ce qu'on appelle les Actes des Apôtres, où il est raconté que les apôtres qui étaient apeurés, etc., parce qu'ils étaient complètement isolés, ils se sentaient persécutés, et puis alors là, ils étaient rassemblés, et puis alors reçoivent des dons de l'Esprit-Saint. Ce sont des dons divers, bon, le don de guérison, le don, alors justement aussi de parler en langue. Le parler en langue alors devient la première forme de rassemblement, si on peut dire, des églises pentecôtistes, parce que justement, c'est renouer avec ces dons de l'Esprit-Saint qu'on croyait de l'ordre du temps des apôtres, mais qu'en fait, là, on va avancer la conviction que, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait contemporain, qu'aujourd'hui, on peut recevoir des dons de l'Esprit-Saint. Et donc, alors, justement, le baptême de l'Esprit-Saint, c'est quand quelqu'un reçoit ce don, notamment de parler en langue, et puis, devant toute l'Église, parle en langue. Alors, le parler en langue, c'est quelque chose qui est une sorte de transe, il faut bien le dire. Donc, on parle un langage étrange, mais on a fait des études tout à fait scientifiques à cet égard-là. On ne peut pas du tout dire que les gens qui rentrent comme ça en transe ont des tendances névrotiques ou psychotiques. En fait, bon, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi, effectivement, dans la psychiatrie. Mais en fait, là, c'est un phénomène d'extase collectif, et donc justement c'est quelque chose qui choque souvent les catholiques.
Et alors justement, est-ce que les catholiques, eux, n'ont pas intégré une branche charismatique en leur sein pour contrecarrer l'explosion du pentecôtisme et donc le fait que beaucoup de fidèles catholiques se convertissaient au pentecôtisme?
Oui, donc c'est exact, c'est vrai pour toutes les églises historiques d'ailleurs. Pas seulement le catholicisme, mais aussi le baptisme, le méthodisme, le presbytérianisme. Toutes ces églises ont laissé à un certain moment la voie ouverte à une sorte de renouveau, que dans le cadre de l'Église catholique, on appelle le renouveau charismatique, et donc qui reprend beaucoup d'éléments d'ailleurs du pentecôtisme. Et incontestablement, l'objectif, c'était d'éviter l'exode des croyants vers les églises pentecôtistes.
Et alors, est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui pour évaluer le nombre de pentecôtistes dans le monde et puis des branches aussi charismatiques des églises historiques ?
En fait, le phénomène d'expansion date des années 80, disons. Les chiffres, bon, c'est très difficile. Il y a un grand spécialiste du pentecôtisme, Owen Leger, qui estimait, en fait, toutes tendances confondues, à un demi-milliard de croyants. Bon, mais en fait, c'est sans doute un peu poussé, mais c'est parce que c'est très difficile de faire la distinction entre, justement, les charismatiques de toutes les églises prophétiques, etc. Donc, bon, moi, je crois qu'on peut certainement dire qu'il y a 100 millions de pentecôtistes, au sens strict du terme. Alors, mais de 100 millions à 500 millions, il y a quand même encore une très grande marge. Alors, vous voyez, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui suscite le plus la pratique religieuse. En fait, essentiellement, c'est le pentecôtisme qui couvre à peu près la moitié des gens qui ont une pratique vraiment très active. Donc, les pentecôtistes vont parfois trois fois par semaine, et donc alors là, en fait, toute leur vie est organisée autour de ça.
On poursuit avec Alain Battu, qui est protestant et journaliste à Radio Dialogue, la radio marseillaise des chrétiens.
La plupart du temps, ces gens-là se disent chrétiens, et précisent « je suis chrétien évangélique », c'est-à-dire « je suis, moi, un vrai chrétien ». Sous-entendu, les autres églises, les catholiques, les protestants, enfin tout ce qui est église historique, bon, c'est des religieux, mais ce n'est pas vraiment des chrétiens. Donc pour un évangélique, il ne va pas dire « j'appartiens à telle église », il va d'abord dire « je suis chrétien ». C'est comme ça qu'on peut les définir, et certains n'hésitent pas à dire « moi je suis chrétien parce que je suis né de nouveau et que dans ma vie, il y a quelques années, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis converti et depuis je suis un vrai chrétien ». La nouveauté, ça a été, on va dire depuis le début du XXe siècle, qu'il y a eu ce mouvement, ce nouveau mouvement pentecôtiste. Et ça, c'est un courant qui, au fil des années, a pénétré toutes les églises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être charismatique en étant dans une église évangélique, en étant dans une église protestante historique, je dis historique au sens luthérien ou réformé, ou tout simplement catholique. Et là, les clivages ne sont plus entre églises, mais les charismatiques se retrouvent entre eux, et même au-delà de la confession chrétienne, parce que, j'allais dire, ils parlent le même langage, ils parlent les mêmes langues, et ont les mêmes glossolalies.
Et alors, comment on va les appeler, nous, les charismatiques ?
Moi, j'aurais envie de dire, ce sont des charismatiques. Alors, charismatiques évangéliques, charismatiques protestants, charismatiques catholiques. Sans mauvais jeu de mots, pour en dire, ce sont des alter-chrétiens, des chrétiens autrement, des néo-chrétiens, pour qui, y compris d'ailleurs dans le monde catholique, cette nouvelle naissance, born again, est vraiment très importante. Hein. Et quand on entend ces gens-là témoigner, il y a l'avant. Alors, l'avant, c'est ben, avant, je buvais, je fumais, je couchais avec les filles ou avec les garçons, suivant le sexe de la personne. Et puis un jour, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis converti et depuis, je suis chrétien. Et puisque je suis chrétien, mon devoir, c'est d'essayer de sauver le maximum d'âmes possibles et donc de les amener à Dieu. Et je crois que là, c'est une particularité de gens qui sont militants, qui n'ont pas peur de descendre dans la rue, de distribuer des tracts, d'afficher leurs opinions, d'inviter les gens pour venir dans leurs églises, de prendre des haut-parleurs, par exemple, dans le centre-ville de Marseille, pour faire de l'évangélisation, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est ce qui va les différencier, j'allais dire, des églises traditionnelles qui célèbrent leur culte le dimanche ou ailleurs, mais qui n'étalent pas trop dans le public leurs manifestations, sauf à quelques exceptions près, en cas de grandes manifestations.
Mais alors, ils sont nombreux à Marseille, on les voit beaucoup ?
Bah écoutez, si on prend le protestantisme à Marseille, pour prendre un exemple, parce qu'on trouve beaucoup plus d'évangéliques, j'allais dire, dans la famille protestante pour des raisons historiques, moi je dirais qu'aujourd'hui, d'après les enquêtes que j'ai pu faire, les néo-protestants, les évangéliques, sont plus nombreux que les protestants traditionnels. Je crois qu'il doit y avoir, il me semble, 7 pasteurs réformés luthériens à Marseille. On doit bien compter 35 pasteurs évangéliques à 40 dans une ville comme Marseille. Alors je sais bien que c'est toute proportion gardée, les paroisses, la notion d'église n'est pas la même, mais les évangéliques sont beaucoup plus nombreux, y compris aujourd'hui au sein de la Fédération protestante de France, qui est donc l'organisation qui regroupe le protestantisme. Et aujourd'hui, les évangéliques sont majoritaires. La preuve, le président de la Fédération protestante de France est un évangélique.
Depuis un an, c'est ça ?
Depuis un an, tout à fait. Claude Baptiste est tout à fait respectable, mais on voit bien que c'est une autre vision du protestantisme, en l'occurrence. Moi, je le déplore, parce que je pense que dans ce type de communauté, ce qui manque beaucoup, c'est l'esprit critique. Et puis avec sans arrêt ce leitmotiv qui est d'interdire. Il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire.
Et alors, qui on trouve dans ces chapelles ?
Moi, quand j'avais commencé à enquêter, je me suis dit, on trouve tous les paumés. C'est vrai, il y a des gens qui vont là parce qu'ils sont paumés, parce qu'ils n'ont plus rien, et qu'on va s'occuper d'eux. Et ça, c'est vrai. Alors, où c'est assez surprenant, c'est on retrouve la société de Marseille. C'est-à-dire qu'on va retrouver le boulanger, l'assistante sociale. On trouve beaucoup de paramédicaux. On trouve tout, mais souvent, on trouve surtout des gens qui n'ont pas l'esprit critique. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à croire un peu n'importe quoi. Il y a 30 ans, on croyait en rien au niveau religieux. Aujourd'hui, moi, je crois que malheureusement, on croit en tout et en n'importe quoi. Et c'est beaucoup plus dangereux. Les gens sont prêts à croire en n'importe quoi. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, ça ne dépend pas du niveau social. On trouve ça à tous les niveaux sociaux. On peut trouver un médecin, on peut trouver, je vais prendre un exemple que j'ai rencontré, une astronome professionnelle qui est créationniste et qui nie l'enseignement officiel qu'elle reçoit de l'astronomie. Ça ne l'empêche pas d'aller regarder dans un télescope tous les soirs. Voilà, bon. Et puis on va trouver, aussi, c'est vrai, beaucoup de petites gens, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais de gens qui sont... Bon, un petit peu des marginaux ou un peu des exclus de la société qui n'ont de recours que ces églises parce que c'est le seul lieu où on les entend, où on les accueille.
Est-ce qu'on trouve des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise ?
Oui, bien sûr. Oui, il y a même... Alors c'est ça qui est extraordinaire. Il y a par exemple des courants comme les hommes d'affaires du plein évangile qui sont un regroupement de responsables qui se retrouvent... pour des réunions dans les Sofitel, par exemple, pour annoncer l'Évangile. Quand on sait le prix de location d'une salle à la journée, on peut se poser des questions et savoir d'où vient l'argent. On trouve tout dans le mouvement évangélique. On trouve des gens très riches dans les milieux évangéliques. Il y a cette église donc, qui vient des États-Unis, les hommes d'affaires du plein Évangile. Ça veut tout dire. On est homme d'affaires, mais on prêche le plein Évangile. Il me semble qu'en lisant les Évangiles, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas servir Dieu et l'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain Jésus de Nazareth. Donc il me semble bien que là... Mais bon, voilà.
Et cette église, cette communauté là, d'hommes d'affaires, il y a une branche qui est à Marseille ?
C'est un mouvement national et je crois qu'au moins une fois par an, il y a une rencontre à Marseille des hommes d'affaires du plein évangile. Voilà, ça c'est typique de ces mouvements charismatiques, évangéliques. C'est pas une église, c'est un mouvement qui regroupe des hommes d'affaires. Ils peuvent être catholiques, ils peuvent être protestants, ils peuvent être évangéliques, mais ils se retrouvent dans ce milieu. C'est très, j'allais dire, c'est très ethnique. Oui, quelque part, c'est très corporatiste. C'est pas une question de clivage confessionnel. Et je crois que ça correspond parfaitement à la société d'aujourd'hui. Je crois qu'on est en plein dans une société où l'argent est roi, où on est dans un ultra-libéralisme, et que ça va bien ensemble, parce qu'en même temps, on peut se justifier de s'en dire « moi, je suis riche, mais c'est Dieu qui l'a permis ».
Effectivement, les évangéliques outrepassent les clivages confessionnels. Parmi eux, il y a même des juifs. Ils s'appellent les juifs messianiques et sont une vingtaine à Marseille à assister au culte.
Et que nous sortons de ce lieu affranchis, relevés, et ceux qui ont des maladies, ceux qui ont des maux, Seigneur, que tout disparaisse, car tu es le Dieu des miracles, qui est celui qui brise les chaînes de la maladie. Ô Dieu, aussi console les cœurs, Seigneur, merci d'envoyer le Saint-Esprit. Et ensemble, juifs et non-juifs, poussons le char de l'Évangile. Dans nos entreprises, dans nos bureaux, même dans nos transports en commun, parlons de l'Évangile, n'ayons pas honte de parler de lui qui est venu nous sauver. Frères et sœurs, travaillons. Jésus est proche, à la porte. Alléluia! Un juif sera sauvé à une seule condition, c'est de recevoir Yeshua à Mashiach.
Amen!
Alors qu'on ne s'amuse pas avec des mots. Je ne suis pas un vrai messianique parce que je ne porte pas la kippa ou le talent. Ma kippa et mon talent, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le sang de l'agneau qui me couvre, comme il te couvre, ma soeur, comme il te couvre, mon frère. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une autre.
nourriture qui fait du bien à nos âmes. On a besoin de Yeshua pour être nourri. Dieu a envoyé Moïse dans le désert pour sauver son peuple. Mais Dieu aussi a envoyé Yeshua pour sauver tous les peuples, et pas un peuple.
Je m'appelle David Cohen et je suis pasteur de l'Assemblée messianique qui se trouve au 24 allée Léon Gambetta. Yeshua, Jésus, a brisé le mur qui nous séparait. Donc il n'y a plus de juifs et plus de grecs, c'est-à-dire que nous sommes tous un même corps en Christ. Nous n'avons pas de dénomination, hein, les étiquettes on n'en veut pas. Tout le monde peut venir écouter la parole de Dieu, car le salut est pour tout le monde et tout le monde a droit d'être sauvé. Voilà, nous les messianiques, nous sommes des juifs qui avons reconnu le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, Jésus de Nazareth. Ici, il n'y a pas que des juifs. Je me vois mal avec une église pour les Africains, une église pour les Arabes, une église pour les Vietnamiens ou l'église pour les juifs. Nous sommes tous ensemble et je crois que Jésus est venu sauver l'humanité tout entière. Ensemble, juifs et non-juifs, nous devons pousser le char de l'évangile car Jésus est proche, il revient bientôt.
Amen. Alors je vous souhaite un bon dimanche.
Direction maintenant la Belle de Mai, la grande salle occupée par l'église P aujourd'hui rassemble une cinquantaine de personnes de diverses origines ethniques.
Se mélange tout dans l'église et de toute communauté. À un moment donné, on était arrivé à 12 nationalités dans l'église. Nationalité française, allemande, anglais. Moi, je suis malgache, des camerounaises, marocaines, algériennes, comment aussi, éthiopiennes, un peu de tout. Plutôt de Somalie, c'est à côté, oui. Oui. Il y avait un peu de tout et ça, c'est Dieu qui réunit le peuple. Voilà.
Des fois, il y en a qui sont à la recherche, je ne sais pas de quoi. Ils ne sont pas bien dans leur vie, alors ils rentrent là. Des fois, c'est des gens qui sont à la recherche par un décès ou par un père d'un fils. Ou... La plupart, c'est des gens comme ça.
Et il y a des miracles, des fois ?
Oui. Moi, au début, je ne croyais pas, mais j'ai vu des miracles devant moi.
Il y a une dame, elle avait le cancer et je ne sais pas, maintenant, ça va mieux en tout cas.
Il y en a qui sont même guéris. Hein. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui ne travaillait pas bien à l'école, dernièrement. Et bien, par les prières, après, bon, ça, je ne sais pas, ça fait un déclic et depuis, elle travaille très bien.
Et toi, alors, tu viens aussi à l'église ?
Oui.
T'as quel âge ?
13 ans.
Et t'es déjà baptisée ?
Non.
J'attends qu'elle soit vraiment sûre. Je ne veux pas obliger. Vous voyez, il faut que ça vienne d'elle-même. Parce que ce n'est pas comme l'église catholique où on baptise bébé. Là, il faut choisir nous-mêmes. Moi, je me suis fait baptiser à 16 ans parce que c'est moi qui ai voulu.
Et c'était comment alors ce baptême d'ailleurs ?
Oh, c'est très bien.
Comment ça se passe ?
Eh bien, comme les autres baptêmes. Vous avez jamais assisté à un baptême ?
Un baptême évangélique, non ?
Ben, c'est à peu près pareil, on vous baptise au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Hein. On vous met un petit dans l'eau.
Dans une piscine ?
Dans une piscine ou dans un truc, ça dépend ce qu'ils ont. Chacun. Il y en a qui ont même été baptisés à la mer. Je suis en conversion musulmane, mais j'ai toujours cru en Christ. Quoi. J'ai déjà été baptisée quand j'avais 16 ans. Mais mes parents, ils n'ont pas voulu. À chaque fois, ils me persécutaient, mon mari aussi. Et moi, j'ai décidé d'être chrétienne, c'est chrétienne, et depuis, je suis restée. Et après que je me suis mariée, mon mari m'a interdit d'aller à l'église et tout ça. Et juste un peu avant son décès, il m'a dit, bon, je te laisse faire ce que tu veux. Et peu après, il est décédé. J'ai toujours voulu être chrétienne depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à aller avec ma voisine à l'église, c'est comme ça. C'est Dieu qui agit. Hein. On fait même des rencontres des chrétiens maghrébins. Il y en a énormément.
Ah oui ?
Oui, oui. Et hier, j'en étais, déjà j'ai été avec des chrétiens maghrébins. On évangélise aussi, on va de partout, à Nîmes. Et hier, on est allé avec les Suisses.
Avec les Suisses.
Avec des... Oui, oui, on est avec les Suisses, oui. Oui, il y a énormément de maghrébins convertis.
Antoine Schuster, pasteur réformé évangélique, s'occupe du projet Mosaïque, initié par la Fédération protestante de France dans plusieurs villes, dont Marseille.
Je crois que du côté de Marseille, on imagine qu'il y a environ 8000 chrétiens évangéliques déclarés. Donc oui, c'est quand même pas mal.
Et Marseille est une ville importante pour le projet Mosaïque dont vous vous occupez. Pourquoi ?
C'est évident, c'est une grande ville. C'est une ville très cosmopolite, aux mille visages. Il y a des populations extrêmement diverses. Il y a toute une vague d'immigration, pour pas dire plusieurs. Et donc, ça semblait aller de soi d'avoir une présence forte ici.
Est-ce que Marseille est une... Il y a aussi donc des missionnaires qui, donc il y a des missionnaires français, des missionnaires étrangers. Est-ce que Marseille est une destination pour ces missionnaires évangéliques ? Une destination particulière ?
Alors, j'ai l'impression que Marseille, c'est la Méditerranée aussi. Et Marseille, c'est peut-être le lieu à partir duquel on peut créer des liens ou toucher, parfois par les ondes, le monde arabophone. Dans Marseille, dans la région, mais aussi sur les rives de l'Afrique. Et donc, il y a comme cela un certain nombre de missionnaires arrivant d'ailleurs qui prennent une espèce de base du côté de Marseille pour pouvoir soit se préparer à partir plus loin, soit rayonner, émettre en quelque sorte un témoignage chrétien à partir de là, en particulier peut-être destiné au monde musulman.
Marseille ferait figure de tête de pont un peu vers les pays musulmans. En fait, on ne viendrait pas évangéliser à Marseille, mais on se baserait à Marseille pour évangéliser plutôt les pays maghrébins, musulmans.
Bon, je dirais que c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux, mais on a l'impression que le protestantisme, et peut-être le protestantisme évangélique, a un peu loupé un virage à Marseille. Durant ces dernières décennies, c'est assez étonnant de voir qu'il n'y a pas, ou très peu, par exemple, de communautés chrétiennes arabophones. Voilà, peut-être que là, en termes de témoignage et de rayonnement, dans le respect des personnes bien entendu, il y a quand même eu quelque chose d'un petit peu inachevé, quoi.
Justement, en fait, je viens d'apprendre que le week-end de Pâques, je crois, il y a eu une manifestation sur le Vieux-Port d'évangéliques en soutien aux évangéliques qui sont basés en Algérie. Vous pouvez nous raconter un peu ?
Vous avez un certain nombre de communautés évangéliques qui essayent de rayonner au niveau du bassin méditerranéen et dont certains prédicateurs étaient régulièrement dans ces régions d'Algérie, en Kabylie en particulier. Ce que je peux dire, c'est que la Fédération protestante est extrêmement inquiète de la situation.
Bon, on va éviter la polémique entre islamique et évangélique pour s'intéresser aux relations entre les églises traditionnelles et les néo-évangéliques, parce qu'en fait, les charismatiques sont vus plutôt comme une menace par les catholiques, mais peut-être comme du pain béni par la Fédération protestante de France. Et oui, parce qu'en France, les évangéliques représentent un tiers des protestants et trois quarts des protestants pratiquants. Alors c'est certainement pour ça que la Fédération protestante de France cherche à tisser des liens avec les églises issues de l'immigration qui poussent actuellement comme des champignons. Mais le problème, c'est que ces églises n'ont pas bonne presse et des dérives ont été pointées du doigt.
Là où l'ensemble du monde évangélique est extrêmement vigilant,
Antoine Schuster,
c'est la dimension de sectarisme. Et la dimension de sectarisme, elle va essentiellement se traduire par le fait de couper avec les autres. C'est le sens du mot secte. Et le deuxième sens du mot secte, c'est de suivre une seule personne qui détiendrait la vérité et la distribuerait à ses disciples. Et je crois que l'ensemble du monde évangélique est extrêmement vigilant, justement, ne voulant pas être confondu avec une secte.
Certains sociologues, en se penchant sur des chapelles évangéliques en particulier, ont pu écrire que parfois la limite était ténue. Certaines de ces églises évangéliques, il y en a toute une multitude, hein, donc certaines sont à la limite sectaire. Est-ce que les autres sont justement en train d'essayer de se dégager d'un risque sectaire et de chercher de l'honorabilité, justement peut-être en se rapprochant de la Fédération protestante de France ?
Alors il y a deux choses. La première, c'est la définition de la secte. J'en ai donné une. Quelqu'un a dit un jour qu'une église, c'est une secte qui a réussi. Donc c'est toujours un petit peu relatif quand même. Maintenant, l'autre aspect, alors là effectivement je rejoins, c'est le risque du comportement sectaire. Et ce risque, il est présent partout. Il peut être présent dans une messe, suivant la façon dont le prêtre conduit ses fidèles. Hein. Donc ça, c'est quand même, ça peut être présent partout, un fonctionnement un petit peu de gourou. Je dirais que les communautés évangéliques essayent, dans la mesure du possible, d'être attentives à ces questions, et soit de se distinguer des personnes qui fonctionnent comme cela, soit, dans la mesure du possible, d'essayer de les aider à évoluer pour quitter ce type de fonctionnement qui, la plupart du temps, est lié à des individus et à des personnalités fortes. Alors la question quand même, c'est que dans les milieux pentecôtistes charismatiques, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit un petit peu désemparé pour faire face à ce genre de comportement, parce que sous l'inspiration de l'esprit, on peut pouvoir avoir une autorité qui oserait la contester.
Alors il y a aussi un aspect qui a été quelque peu critiqué, c'est celui des télé-évangélistes. Donc c'est télévangélistes américains en particulier, même si maintenant il y en a d'autres nationalités, qui parcourent le monde à bord d'avions privés et vont prêcher dans des stades ou en France peut-être plutôt dans des lieux un peu plus petits que des stades. Quelle est la position des évangéliques en France par rapport à ces prédicateurs étrangers qui propagent une théologie de la prospérité, qui font ce qu'ils appellent des croisades aux miracles, etc.
Oui, croisades aux campagnes de miracles. Je dirais globalement, hein, parce qu'à partir de là, il peut y avoir une diversité d'opinions tout de même. Un des fronts par rapport auquel il faut bien se positionner, c'est effectivement cette conception d'une théologie dite de la prospérité qui signifierait que la bénédiction spirituelle des individus, dans leur fidélité à Dieu, doit immanquablement se traduire par une bénédiction matérielle. Et donc il y a une espèce de jeu en quelque sorte qui s'enclenche et qui est extrêmement dangereux à ce niveau-là, parce que la plupart du temps ça aboutit à dire « donnez et vous recevrez au centuple ». C'est toujours les mêmes qui reçoivent. Donc là, il y a vraiment un travers et une déviance qui est extrêmement dangereux et qui touche souvent les populations les plus pauvres parce qu'elles ont l'impression de retrouver espoir. Et là, le monde évangélique, globalement, vraiment s'inscrit en faux par rapport à ces pratiques. C'est pas forcément facile dans certaines communautés issues de l'immigration, parce qu'on touche tellement à des besoins fondamentaux et à un contexte de grande précarité que c'est parfois, pour ces gens-là, un moyen de sortir la tête de l'eau.
Alors, est-ce que en même temps, ces travers, donc cette théologie de la prospérité d'un côté, et puis ces grandes croisades, est-ce que c'est pas ça qui fait que l'évangélisme marche en ce moment?
Plus ou moins. C'est peut-être un phénomène qui marche, et surtout un phénomène qui est visible, mais en termes de résultats, je suis pas du tout sûr qu'il y en ait tant que cela. En même temps, le grand rassemblement en soi, il n'est pas critiquable. Maintenant, une question qui se pose peut-être, c'est l'aspect un peu bling-bling des choses, hein, pour prendre une terminologie récente, d'une part, puis alors d'autre part, c'est comme les grandes actions humanitaires qu'on a chaque année, Téléthon et compagnie, c'est qu'on vide les caisses de beaucoup d'associations, ou alors on empêche les donateurs d'être réguliers dans des programmes et dans des projets qui sont beaucoup plus réguliers.
Une chose est sûre, puisque j'en ai moi-même fait les frais, les évangéliques sont extrêmement méfiants vis-à-vis des médias. Xavier Tracol, journaliste évangélique, nous explique pourquoi.
Les évangéliques se considèrent comme une minorité. Et les minorités en France sont plutôt mal vues, sont plutôt mal perçues. Et ensuite, il y a un passif. Hein. Il y a quelques années, le Nouvel Obs titrait « Les évangéliques, la secte qui veut gouverner le monde ». Évidemment, c'était une erreur grossière. Le dossier était mal conçu, mal documenté. Donc depuis ce temps-là, avec la montée des évangéliques de droite aux États-Unis, les télés ont fait beaucoup de documentaires sur les évangéliques aux USA. Il est facile, évidemment, de faire l'amalgame évangélique américain, évangélique français. Ce que les évangéliques français refusent complètement. Hein. Ils ont pourtant une certaine influence anglo-saxonne, mais ils refusent qu'on les assimile aux évangéliques qui ont voulu la guerre en Irak, qui ont fait certains excès. Et donc quand TF1 et M6 font des reportages très croustillants sur certains abus qui existent dans les églises, mais comme il en existe ailleurs dans la société, évidemment ça passe pas.
Alors justement, est-ce qu'on peut développer un peu sur l'influence des évangéliques américains au niveau culturel?
Les évangéliques français recherchent le modèle anglo-saxon, mais là aussi, comme le reste de la culture française, qui essaie forcément de recopier l'esthétisme anglo-saxon dans les séries télé ou les bandes dessinées ou ailleurs. Le pôle de l'évangélisme américain est un pôle très dynamique. Énormément de littérature évangélique vient des USA, de musique également, etc. L'argent est là-bas, et le dynamisme culturel vient de là-bas.
Est-ce que c'est pas un moyen pour certains jeunes de se produire au niveau musical dans un contexte où la culture est en difficulté, et c'est très difficile pour un jeune qui serait passionné de musique de sortir un disque? Est-ce que ce serait pas plus facile finalement si on faisait de la musique évangélique, enfin, si le jeune en question voulait faire de la musique évangélique?
Oui, ça marche aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, je sais pas. Je pense pas que ça marche en Europe. En Europe, le jeune pourra, oui, bien sûr, faire de la musique dans son église locale. Ça, même l'église locale sera demandeuse. Après, de là à produire un disque, ce sera beaucoup plus compliqué, l'argent n'existant pas. Ah oui, il existe un microcosme économique, évangélique, avec des maisons de disques, enfin, une en France, des maisons d'édition, mais où c'est plutôt cher, ou alors le choix est très restreint. Donc, ce sera quand même très difficile de monter son groupe et d'en vivre. Je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison avec le milieu américain. Où là, par exemple, aux USA, les grands magasins ont des rayons entiers de musique chrétienne. Donc, ça n'existe pas encore en France. Même s'il existe, par exemple, des librairies évangéliques ou des librairies chrétiennes, comme il existe des librairies catholiques. La différence avec les États-Unis aussi, c'est que ce n'est pas la culture dominante, l'évangélisme. Ce qui est le cas aux États-Unis, par exemple, où tout le monde, ou presque, se dit chrétien, et parmi les chrétiens, énormément se disent évangéliques. En France, non, ça représente moins d'1% de la population.
Par Jésus, je suis délivré. C'est Jésus, Jésus seul, c'est Jésus-Christ qui peut sauver.
Il peut y avoir des évangélisations structurées. Par exemple, on fait une grande conférence avec une expo, on fait venir un évangéliste très connu, américain par exemple. On traite d'un sujet de société. Ça, c'est un exemple d'évangélisation. On fait un concert. Une église locale peut décider de monter un projet d'évangélisation. Par exemple, on achète une centaine de Nouveaux Testaments et on va les distribuer dans la rue. Bon, c'est possible, ça existe. Il y a des organisations qui sont créées, qui sont montées spécialement pour ça. Par exemple, Campus pour Christ fait de l'évangélisation sur les campus universitaires.
Ça, c'est une association nationale ?
C'est une association donc, complètement nationale, même internationale, mais qui a une branche française. Oui, oui. Il va y avoir la même chose chez les hommes d'affaires, il va y avoir la même chose chez les sportifs, Sport et Foi, qui est une autre branche de la même organisation de Campus pour Christ. C'est aussi une organisation internationale. Il va y avoir des missions, donc des organisations qui sont faites pour évangéliser, pour monter des églises pionnières, donc c'est-à-dire... On commence avec personne et par l'évangélisation, on monte une église.
Alors, est-ce que ce phénomène d'évangélisation, donc qui n'est pas individuel, mais organisé, quelle est l'évolution de ce phénomène?
Parmi les évangéliques, c'est une activité qui peut-être prend de plus en plus de temps ou qui a de plus en plus d'importance. Alors, pour une bonne raison, c'est qu'on dit souvent dans le milieu missionnaire que la France est le tombeau des missionnaires. C'est-à-dire que toutes les techniques d'évangélisation qu'on utilise ailleurs, mais ailleurs en Europe, pas forcément au fin fond de l'Afrique, ne fonctionnent pas en France. Parce qu'il y a une histoire, une philosophie universaliste qui existe en France qui fait qu'il y a un moment un blocage.
Quand j'ai crié...
On traite souvent les évangéliques de fondamentalistes. mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, fondamentaliste. Si ça veut dire croire à ce qu'est écrit la Bible, les 4/5 des évangéliques ou les 9/10 sont fondamentalistes, et j'en fais partie.
Xavier Tracolle.
Ce qui est le sens premier de fondamentaliste.
Oui, exactement, et non pas forcément intégriste, complètement fanatique. Hein. Donc oui, si on est évangélique, on croit forcément au miracle, bien sûr.
Et maintenant, si on prend fondamentaliste au sens extrémiste, là, ce serait quoi la proportion ?
Aucune idée, mais c'est très faible. Après, il va y avoir des mouvements de mode que moi, je vais trouver un peu extrémistes, mais ça ne veut pas dire que la personne l'est. Elle va adhérer à quelque chose que moi, je trouve un peu tendancieux. Mais si on prend l'exemple du prédicateur américain Benin, qui est venu en France plusieurs fois, c'est un prédicateur qui a soulevé une énorme polémique au sein même des évangéliques.
Il faut un peu expliquer qui c'est un millionnaire.
Alors, c'est voilà, une espèce de missionnaire, prédicateur, télé-évangéliste qui a énormément d'argent, millionnaire, qui est à la tête d'une structure de mission extrêmement importante aux États-Unis et dans le reste du monde, qui fait ce qu'il appelle des croisades. Alors, il va dans tel pays où il remplit des stades ou des salles polyvalentes, à faire des miracles, c'est-à-dire des miracles de guérison. Les personnes malades viennent le voir, il leur impose les mains en priant, et ces personnes-là ou tombent, ou crient, ou pleurent, ou s'extasient, et en ressortent guéries.
Bon. Devant toute la foule du stade.
Devant toute la foule du stade, oui, c'est un show, hein, c'est pas... Alors, ça posait une énorme polémique. À chaque fois qu'il vient, ça pose... Mais lui, comme d'autres, hein, il en existe plusieurs autres, ça pose à chaque fois un énorme problème. Parce que certains évangéliques disent « Mais tout cela, c'est à la gloire de Dieu. Dieu fait des miracles à travers Bénin, et non pas Bénin fait des miracles. Donc c'est très bien. » Et d'autres disent « Mais écoutez, tout ça, c'est du cinéma. C'est du mensonge organisé. C'est du cirque. Donc arrêtons de nous ridiculiser en public. » Donc les évangéliques sont partagés entre ces deux tendances. Donc Bénin est venu à Marseille il y a quelques années. Certaines églises avaient organisé son déplacement. D'autres clairement dit qu'elles étaient pour rien dans cette organisation et qu'au contraire, elles rejetaient complètement.
La personne qui est à la tête de la Fédération protestante de France depuis un an est évangélique. Donc son influence quand même est grande puisqu'il est à la tête de la Fédération protestante de France. Claude Batty, par rapport à sa Bénin, si on prend Bénin comme symbole, sur quelle ligne il se positionne ?
Je pense que c'est le contraire total de Bénin, hein, ça n'a absolument rien à voir. Bénin est vraiment l'icône de l'excès américain, hein, millionnaire, avec des miracles à l'appel.
Mais lui, il rejetterait plutôt Bénin ?
Je pense qu'il sera peut-être plus prudent que moi là-dessus, mais il n'a pas à rejeter ou pas. Il est à la tête de la fédération, d'une fédération qui tend à englober aussi bien les luthéro-réformés que les évangéliques. Donc il faut qu'il ménage tout le monde. Sur certaines questions, on laisse la liberté la plus totale aux églises qui vont dire si c'est bien ou si c'est pas bien.
Mais est-ce que ça, c'est pas laisser la porte ouverte aux abus ? Alors si on pense effectivement que ce que fait Bénin est au moins abus moral, et d'autres télévangélistes ont été condamnés quand même, hein. Il y a eu des procès aux États-Unis.
Oui. Alors les protestants évangéliques ne cherchent pas forcément à imposer un label bon ou pas bon, autorisé ou non autorisé. Chacun fait sa sauce. Et dans cette sauce, il y a des abus, comme il y a des très bonnes choses. Donc, cette grande liberté, oui, peut faire naître des abus. Mais peut faire naître aussi un mouvement de protestation contre ces abus. Donc, une espèce d'autorégulation. Bon.
Demain, il y a un... lundi de Pâques, il y a un concert à...
Allez, on va placer Bastopol dans la plus ancienne église évangélique de Marseille où un concert de gospel est organisé.
Il est venu sur la terre pour écraser la terre du diable. Il n'y a que lui qui puisse le faire, que lui qui soit capable. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, Emmanuel, agneau de Dieu, ressuscité.
Alors on chante du gospel contemporain, c'est-à-dire du gospel en version française, pour que tout l'auditoire comprenne les paroles en fait. Voilà. On est tous membres de l'église évangélique de cette place Sébastopol. Ouais. On se déplace en fait dans certaines maisons de retraite, on se déplace aussi à l'armée du salut, sinon on se déplace un peu de partout, on va dans d'autres églises, on a chanté dans des églises catholiques aussi, on se déplace ailleurs.
Bon, moi j'aide un peu pour la vente de la lecture chrétienne. Quoi, voilà. Le matin, il y a beaucoup de monde. Hein. On doit être à peu près dans les 250, presque 300. Voilà. Je fais baptiser à... J'avais 20 ans et j'en ai 52. Donc, c'est quelqu'un, une chrétienne, donc il m'a parlé du Seigneur. Et bon, moi je suis venue quelques fois au début. Et après, bon, j'ai été convaincue de ce que Dieu était vivant, parce qu'il a vraiment changé ma vie. Et j'ai fait des expériences avec lui. Quoi. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Dieu a permis que j'ai deux enfants. J'en adopte un. Le plus important, je veux dire, bon, c'est bien une guérison, mais le plus important, c'est le salut de son âme, quoi. Je veux dire, avoir la paix. Je pourrais vous dire les plus belles paroles qu'il faut, mais il faut l'expérimenter. Vous comprenez ? C'est quelque chose qu'on vit. Je peux bien vous l'expliquer, mais il faut que vous fassiez une expérience avec lui pour vraiment comprendre vraiment son amour, quoi. Parce que c'est quand même une personne. Vous lui parlez comme si c'était votre père, je veux dire, et encore mieux, parce qu'on sait que lui ne nous décevra jamais. Donc voilà, c'est ma plus belle expérience, quoi. Même qu'on a un mari, des enfants, mais la plus belle expérience, c'est d'avoir rencontré le Seigneur. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère que vous reviendrez, mais pas en tant que journaliste.
Bon, moi, si vous voulez, je suis chrétienne, j'allais dire de père en fils. Voilà. Et c'est vrai que les enfants de chrétiens ont cet avantage d'avoir entendu ce message et d'avoir fait leur choix à un moment donné. Bon, le choix, on peut le faire de s'en aller, de sortir de l'église ou d'y rester. Bon, ben, moi, le choix, 25 ans, j'ai fait de m'en aller, puis je suis revenue un jour, si vous voulez. Voilà.
Vous pouvez raconter ça, alors ?
Ah, ben oui, je peux raconter que j'avais entendu l'évangile pour la première fois à l'âge de 12 ans. L'évangile dans sa simplicité, comme on le prêche chez nous, si vous voulez. Hein. En revenant, si vous voulez, au simple texte biblique, si vous voulez, sans arrangement, sans fioriture. Et puis, à l'âge de 17-18 ans, ben, j'ai fait mon choix parce que je savais que c'était en contradiction avec le type de vie que je voulais mener. Moi, je voulais m'amuser, bon, faire la folle, entre guillemets. Et je savais très bien que ça n'allait pas avec. Au fond de moi, je savais cette chose-là. Bon, donc, j'ai fait mon choix clair et net de m'éloigner, de m'en aller, si vous voulez. Et bon, j'ai vécu mon expérience de la vie, si vous voulez. Mais ça a été une vie de patachon, vraiment. Je passe sur les détails, hein. Mais un jour, si vous voulez, j'en ai eu marre de cette vie qui me laissait toujours du vide à l'intérieur. Et comme ce message que j'avais entendu autrefois, il était resté au fond de moi, je savais où je pouvais trouver la paix, où je pouvais trouver l'équilibre, ben je suis spontanément revenue un jour, si vous voulez, voilà. Alors j'avais 17 ans quand j'ai tout laissé tomber. Je suis revenue à 42 ans et j'en ai 64. Voilà, vous ferez les comptes, vous saurez à quel moment. Ça fait 22 ans que je suis revenue dans cette église, voilà. Il y a une succession d'événements qui ont, si vous voulez, travaillé mon cœur, mon être intérieur, si vous voulez. J'étais perturbée, j'avais vécu beaucoup d'expériences négatives dans ma vie, sur le plan sentimental, affectif, un divorce, enfin, des échecs, en fait, comme tout un chacun. Hein. Et j'étais en morceaux, j'allais dire. J'étais du ressort de la psychiatrie. Hein. Bon, un psy se serait régalé pour me reconstituer, j'allais dire. Hein. Bon, ben voilà, j'étais éclatée par tous ces échecs, toutes ces déceptions. C'était surtout affectif chez moi. Hein. Je n'avais pas connu la maladie, rien de terrible de ce genre. Et ben voilà, un jour chez moi, je le dis honnêtement, je tombais à genoux et je dis à Dieu, si tu existes encore, parce que j'y avais cru autrefois, je dis, si tu existes encore, je lui ai dit, mais fais quelque chose pour moi, moi je ne peux pas vivre avec tant d'angoisse, voilà. Ma personnalité s'est reconstituée, mais s'est reconstituée différemment, je dirais, parce qu'il y a des choses que je ne ferai plus jamais, parce que je sais qu'elles m'ont fait du mal, que je ne dirai plus, que je ne ferai plus. Si vous voulez, maintenant, je vis, c'est comme si la Bible, c'était un code pour moi. La Bible, c'est mon code de vie. Elle me dit que j'aime pas le mot dicté, parce qu'il semble que c'est quelque chose d'un dictat sur votre vie. Elle me donne, elle me trace le chemin. Voilà, elle me dit ce que je dois faire ou ne pas faire. Et je la suis. En fait, pour moi, c'est la manière que Dieu a de me parler, la Bible, si vous voulez. Et je l'écoute, et je l'écoute, et je n'en ressens que du bien, voilà. J'allais dire, personne ne m'a bourré le crâne. Hein. On ne m'a pas fait un lessivage de cerveau. Je suis revenue spontanément. C'est chez moi que je suis tombée à genoux et que j'ai crié de tout mon cœur à Dieu. Hein.
Pourquoi vous n'êtes pas allée voir un psy ?
J'en sais rien, j'ai toujours eu un petit a priori contre les psys. Parce que pour moi, c'est des gens qui fouillent l'âme, c'est vrai, mais qui n'ont pas le remède, si vous voulez. Pour moi, n'apporte pas le remède aux maux de l'âme. Pour moi, les maux de l'âme, c'est du ressort divin. L'âme, elle appartient à Dieu. C'est son domaine, si vous voulez. Voilà.
Aujourd'hui, dans ces églises qui tournent autour de la psychologie, de tout ce... il y a plein de groupes, de relations d'aide, de choses comme ça, où les gens vont volontiers et où ce n'est pas gratuit. Des gens en vivent et en vivent bien. Donc je dis attention, attention, là aussi, ne mélangeons pas la psychologie, la foi, ne faisons pas n'importe quoi. Et puis, alors la question, c'est pourquoi va-t-on chercher des réponses dans ce genre d'église ? Parce qu'on est dans des grandes villes, on est seul. Parce que bah, c'est l'occasion d'être en groupe. Mais en même temps, très souvent, les gens qui sont là sont souvent culpabilisés, ont souvent beaucoup de problèmes, et on ne les aide pas à en sortir. Au contraire, plus ils restent dans leurs problèmes, plus ça fait des bons paroissiens. Et ça, moi, je dis danger. On est dans une société où le politique a disparu. C'est vrai qu'on est dans une société où c'est l'économie qui prime. Et ben, je me demande si parfois on n'a pas mis Dieu à la place du politique. C'est-à-dire que comme il n'y a plus d'utopie qui font rêver les gens aujourd'hui, moi pour les gens de ma génération, on rêvait que la plage était sous les pavés. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus de grandes idéologies qui font rêver. On a même vu la faillite de certaines, bah, le dernier recours, c'est Dieu, parce qu'à la limite, on est à peu près sûr qu'il ne viendra pas contredire. Et ça, c'est valable pour le monde entier. On voit bien qu'il y a une poussée intégriste dans tous les pays du monde, et pas seulement dans l'islam. Alors, cette poussée du religieux et de l'identitaire, elle existe maintenant en France aujourd'hui, et je crois qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que certaines communautés deviennent violentes, prennent les armes. Il suffirait d'un rien. On n'en est pas là, heureusement, mais en même temps, ce sont des gens qui, de bonne foi, pourraient faire des choses tout à fait dérangeantes. On voit bien, par exemple, certaines manifestations contre l'avortement, contre l'homosexualité, contre... Même si les églises traditionnelles ont des choses à dire là-dessus, on ne verra jamais des catholiques et des protestants, j'allais dire normaux, descendre dans la rue pour manifester contre ce genre de choses.
C'était Alain Battu, journaliste à Radio Dialogue. Voilà, on doit clôturer cette émission sur les évangéliques à Marseille. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aller faire un tour approfondi dans les communautés chinoises, africaines, philippines, russes ou encore arméniennes qui composent le paysage évangélique marseillais. Ce sera pour une prochaine fois peut-être. Ma foi, merci à tous ceux qui ont collaboré à cette émission et à vous qui l'avez écoutée. Notre thématique sur les croyances, les religions et les identités s'arrête là, mais vous pouvez écouter toutes ces émissions sur notre site web www.grenouille888.org. We'll be right back.